Chapitre 21. Il fait chaud ici dedans, et il y a trop de bruit. Les voix des femmes montent autour de moi en une mélopée douce qui est encore trop forte pour moi, après des jours et des jours de silence. Dans un coin de la pièce, il y a un drap taché de sang roulé en boule et jeté là quand elle a perdu les os. Je ne l'avais pas encore remarqué. La chambre sent aussi l'air confiné. Il faudrait ouvrir une fenêtre. L'odeur est celle de notre propre chair, des effluves organiques, de sueur, avec un relent de fer à cause du sang sur le drap, et une autre odeur, plus animale, qui provient certainement de Janine. Odeur de tanière, de grotte habitée. L'odeur de la couverture écossaise du lit quand la chatte a mis bas dessus, une fois, avant d'être castrée. Odeur de matrice. Inspirez, inspirez. Psalmodions-nous, comme on nous l'a appris. Retenez, retenez. Soufflez, soufflez, soufflez. Nous chantons sur un rythme à 5 temps. Inspirez, de 1 à 5. Retenez, jusqu'à 5. Soufflez, de 1 à 5. Janine, les yeux fermés, essaie de ralentir sa respiration. Tante Elisabeth, la palpe, pour sentir les contractions. Maintenant, Janine est agitée. Elle veut marcher. Les deux femmes l'aident à se lever du lit, la soutiennent de chaque côté, tandis qu'elle marche de long en large. Une contraction l'assaille, elle se plie en deux. L'une des femmes s'agenouille et lui masse le dos. Nous sommes toutes expertes à cela. Nous avons pris des leçons. Je reconnais De Glenn, ma compagne de commission. Assise à 2 personnes de moi. La douce mélopée nous enveloppe comme une membrane. Entre une Martha portant un plateau, une cruche de jus de fruits, celui qu'on fabrique à partir de poudre, du raisin, dirait-on, et une pile de gobelets en papier. Elle pose le tout sur le tapis, devant les femmes qui chantent. De Glenn, sans manquer un temps, verse, et les gobelets passent de main en main. Je reçois un gobelet, me penche de côté pour le faire passer, et ma voisine me dit tout bas à l'oreille « Est-ce que vous cherchez quelqu'un ?» Je réponds, tout aussi bas « Moira, cheveux noirs, tache de rousseur. »« Non, » dit la femme. « Je ne la connais pas, elle n'était pas avec moi au centre, mais je l'ai vue, au marché. Je la guetterai pour vous. »« Vous êtes ?»« Alma, » répond-elle. Quel est votre vrai nom? Je veux lui dire qu'il y avait une Alma au centre avec moi. Je veux lui dire mon nom. Mais tante Elisabeth lève la tête, lance un regard alentour. Elle doit avoir entendu un blanc dans la mélopée. Alors je n'ai plus le temps. Parfois on peut découvrir des choses les jours de naissance. Mais cela n'aurait pas de sens de demander après Luc. Il ne pourrait être nulle part où l'une de ces femmes serait susceptible de le voir. La mélopée résonne toujours, cela commence à me gagner. Cela demande des efforts, il faut se concentrer. « Identifiez-vous à votre corps !» disait tante Elisabeth. Déjà, je ressens de légères douleurs au ventre, et mes seins sont lourds. Janine crie, un cri faible, à mi-chemin entre le cri et le gémissement. « C'est le travail qui commence !» dit tante Elisabeth. L'une des assistantes éponge le front de Janine avec un linge humide. Janine transpire à présent. Ses cheveux s'échappent par mèches de la bande élastique. Elle en a qui lui colle au front et au cou. Sa chair est moite, saturée, lustrée. « Haletez, haletez, haletez !» chantons-nous.
« Je veux sortir !» dit Janine. « Je veux aller me promener !» Je me sens très bien. Faut que j'aille aux chiottes.
Nous savons toutes qu'elle est en travail. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Laquelle de ces déclarations est vraie? Probablement la dernière. Tante Elisabeth fait un signe. 2 femmes se placent à côté des WC portatifs. On y fait asseoir Janine, doucement. Dans la pièce, Une autre odeur vient s'ajouter aux précédentes. Jeanine gémit encore, la tête penchée en avant de sorte que nous ne voyons que ses cheveux. Ainsi ramassée, elle est comme une poupée, une vieille poupée qu'on aurait saccagée et rejetée dans un coin. Les poings sur les hanches. Jeanine s'est relevée. Elle marche.
« Je veux m'asseoir !»
dit-elle. « Depuis combien de temps sommes-nous là ? Des minutes ? Des heures ? Je transpire. Ma robe est trempée sous les bras. Je sens le goût du sel sur ma lèvre supérieure. Les fausses douleurs me tenaillent. Les autres les ressentent aussi. Je le sais, aller voir se balancer. Jeanine suçote un cube de glace. Puis, après cela, à des centimètres ou des kilomètres de distance, elle crie.
« Non ! Oh non ! Oh non !»
C'est son second bébé. Elle a eu un autre enfant, un jour. Je l'ai su au centre, où elle le pleurait la nuit. Comme nous toutes, mais plus bruyamment. Alors elle devrait se souvenir de ceci, de ce que cela fait, de ce qu'il attend. Mais qui arrive à se rappeler la douleur une fois qu'elle est passée ? Tout ce qu'il en reste est une ombre. Pas même dans l'esprit, mais dans la chair. La douleur marque, mais trop profondément pour que cela se voie. Loin des yeux, loin du cœur. Quelqu'un a corsé le jus de raisin. Quelqu'un a subtilisé une bouteille en bas. Ce ne sera pas la première fois à ce genre de réunion, mais ils fermeront les yeux. Nous aussi avons besoin de nos orgies.
« Baissez les lumières !» dit tante Elisabeth. « Dites-lui qu'il est temps !»
Quelqu'un se lève, va vers le mur, la lumière dans la chambre devient tamisée et tourne au crépuscule. Nos voix faiblissent et se transforment en un cœur de grincement. De murmures rauques, comme des sauterelles, la nuit, dans un champ. Deux quittent la pièce, deux autres conduisent Jeanine à la chaise d'accouchement, où elle s'assied, sur le plus bas des deux sièges. Elle est plus calme à présent. L'air passe régulièrement dans ses poumons. Nous nous penchons en avant, crispés, les muscles du dos et du ventre endoloris par la tension. Cela vient, comme un clairon, comme un mur qui s'effondre. Nous le sentons comme une lourde pierre qui se meut vers le bas, attirée vers le bas, à l'intérieur de nous. Nous croyons que nous allons éclater. Nous nous étreignons les mains. Nous ne sommes plus uniques. L'épouse du commandant fait irruption. Dans sa ridicule chemise de nuit en coton, d'où dépassent ses jambes maigrichonnes. Deux des épouses, en robe et voile bleue, la soutiennent par les bras. Comme si elle en avait besoin. Son visage arbore un petit sourire pincé, comme une hôtesse lors d'une soirée qu'elle aurait préféré ne pas donner. Elle escalade la chaise d'accouchement, s'assied sur le siège qui est derrière Jeanine et la surplombe, de sorte que Jeanine se trouve encadrée par elle. Ses jambes décharnées pendent de chaque côté comme les accoudoirs d'un fauteuil biscornu. Chose saugrenue, elle porte des chaussettes de coton blanc et des pantoufles d'intérieur, bleues, faites d'une matière pelucheuse comme les housses de siège de WC. Mais nous n'accordons aucune attention à l'épouse. C'est à peine si nous la voyons. Nos regards sont fixés sur Jeanine. Dans la lumière tamisée, vêtue de sa robe blanche, elle miroite, comme une lune ennuagée. Elle gémit, maintenant, dans l'effort.
« Poussez, poussez, poussez !»
murmurons-nous.
« Détendez-vous, haletez. Poussez, poussez, poussez !»
Nous sommes avec elle. Nous sommes identiques à elle. Nous sommes ivres. Tante Elisabeth s'agenouille, elle tient une serviette déployée pour recevoir le bébé. Voici le couronnement, la gloire, la tête, violette, immaculée de yogourt. Encore une poussée, et il glisse, luisant de liquide et de sang, dans notre attente. Ô joie ! Nous retenons notre souffle, tandis que Tante Elisabeth l'examine. C'est une fille. Pauvre petite. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Du moins, il n'y a aucun défaut visible. Mains, pieds, yeux. Nous dénombrons en silence. Tout est à sa place. Tante Elisabeth, le bébé dans les bras, lève les yeux vers nous et sourit. Nous sourions aussi. Nous sommes un même sourire. Les larmes coulent sur nos joues tant nous sommes heureuses. Notre bonheur est en partie souvenir. Ce que je me rappelle, c'est Luc, avec moi à l'hôpital, debout près de ma tête, à me tenir la main, vêtu de la blouse verte et du masque blanc qu'on lui avait donné. « Oh ! Oh mon Dieu !» disait-il, avec des soupirs émerveillés. Cette nuit-là, il n'a pas pu fermer l'œil, a-t-il dit, tellement il était surexcité. Tante Elisabeth lave doucement le bébé. Il ne pleure pas beaucoup, il se tait. Aussi silencieusement que possible, pour ne pas l'effrayer, nous nous levons, nous massons autour de Jeannine à la serrer, la caresser. Elle pleure, elle aussi. Les deux épouses en bleu aident la troisième, l'épouse de la maison, à descendre du tabouret et à gagner le lit où elle l'allonge et l'aborde. Le bébé, maintenant baigné et tranquille, est posé cérémonieusement dans ses bras. Les épouses arrivent d'en bas, en foule à présent, se poussent au milieu de nous, nous écartent. Elles parlent trop fort. Certaines d'entre elles tiennent encore leur assiette, leur tasse à café, leur verre de vin. Certaines mastiquent encore. Elles se groupent autour du lit. La mère et l'enfant, arroucoulées et congratulées. L'envie irradie de leur personne. Je sens son odeur, de légères bouffées acides, mêlées à leur parfum. L'épouse du commandant baisse les yeux sur le bébé, comme si c'était un bouquet de fleurs. Quelque chose qu'elle aurait gagné. Un trophée. Les épouses sont là pour être témoins du baptême. Ce sont les épouses qui choisissent le nom ici. « Angela !» annonce l'épouse du commandant. « Angela ! Angela !» répètent les épouses, gazouillantes. « Quel joli nom ! Oh, elle est parfaite ! Oh, elle est merveilleuse !» Nous nous sommes mises entre Jeannine et le lit, pour lui éviter de voir cela. Quelqu'un lui donne un verre de jus de raisin. J'espère qu'il y a du vin dedans. Elle a encore des douleurs pour le placenta. Elle pleure, faiblement, à larmes épuisées, misérable. Pourtant, nous sommes jubilantes. C'est une victoire pour nous toutes. Nous avons réussi. Elle sera autorisée à nourrir le bébé quelques mois. Il croit au lait maternel. Puis, elle sera transférée pour voir si elle est capable de recommencer avec quelqu'un d'autre qui aura besoin de ses services. Mais elle ne sera jamais envoyée aux colonies. Elle ne sera jamais déclarée anti-femme. C'est sa récompense. L'anatomobile attend dehors pour nous livrer à nos maisons respectives. Les médecins sont toujours dans leur fourgon, leurs visages apparaissent à la fenêtre, taches blanches, comme les visages d'enfants malades qu'on garde à la maison. L'un d'eux ouvre la porte et vient vers nous. « Tout s'est bien passé ?» demande-t-il inquiet. Je réponds « Oui. À présent, je suis lessivée, épuisée. Mes seins sont douloureux, ils coulent un peu, du faux lait. Cela arrive à certaines d'entre nous. Nous nous asseyons sur nos banquettes, face à face, pendant le transport. Nous sommes sans émotion maintenant, presque privés de sensibilité. Nous pourrions aussi bien être des paquets de tissus rouges. Nous souffrons. Chacune de nous tient dans son giron un revenant, un bébé fantôme. Ce qui nous poursuit, une fois l'excitation retombée, c'est notre propre échec. Je pense, mère, où que tu sois, peux-tu m'entendre? Tu voulais une culture de femme? Eh bien, la voici. Ce n'est pas ce que tu voulais, mais elle existe. Soyons reconnaissants des moindres bienfaits.